Transistor. Transistor, l'émission. Bonsoir, bonsoir à Gamat en direct de. Des artistes hein, qu'on va retrouver tout de suite à la fin de notre émission. Bonsoir à Eric.
Bonsoir.
Qui va co-animer avec moi cette 29e émission Transistor.
Déjà.
Et bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
Sébastien Pelé, donc notre invité qui nous fait le plaisir de. On a le plaisir de recevoir ce soir. Musicien à 16h, tu nous le confirmais là tout de suite. Mélomane averti, on va le voir avec ta petite sélection. Bien intéressante que tu nous as ramené ce soir. Animateur de l'émission Quand le jazz est là sur cette même antenne, le premier mardi de chaque mois de 18h30 à 20h si je suis bien informé.
C'est ça, ouais.
Voilà. Et aussi et surtout discothécaire à la bibliothèque départementale de la Mayenne. C'est ça.
Discothécaire et bibliothécaire.
D'accord. Bah, tu nous expliqueras tout ça au cours de cette émission. Ça nous semblait intéressant dans cette émission de parler. Bien sûr, des artistes, des assos qui organisent des concerts, mais aussi des gens qui œuvrent dans l'ombre, on va dire, pour le plaisir de nos petites oreilles. Donc voilà, c'est intéressant aussi de discuter de ce type de métier dont on parle peut-être pas très souvent. Donc tu nous parleras de tout ça et aussi des disques de chevet que tu nous as apportés, je le disais tout à l'heure. Mais avant, place à la démo Haricot, qui est venue avec dans sa petite sacoche un disque de.
Un disque de Marabout Orchestra, voilà. Donc, justement, je voulais rendre hommage à Marabout Orchestra, donc chroniquer bien sûr, mais surtout trouver un lien, un petit écho avec cette période faste de célébration, puisqu'on a eu les Oscars, les Césars, bientôt les Victoires de la Musique. Eh bien, permettez-moi, chers auditeurs et auditrices de l'autre radio, d'ajouter un autre prix. Un Momo d'or, une démo Momo d'or qui sera un
Rico d'or,
un Rico d'or, pourquoi pas, ouais, enfin non là c'est peut-être un peu avoir le citron, donc que je vais décerner à l'unanimité de moi-même bien évidemment à ce nouveau projet mayennais, que j'ai nommé, qui est le Marabout Orchestra. Donc je l'ai découvert pas plus tard qu'hier voilà, c'est un coup de cœur, on va dire, car cet EP 4 titres n'arrête pas de squatter mon à coq nacré pour pas sauter, citer la marque bien évidemment. Donc voilà, c'est quoi Marabout Orchestra? C'est surtout initié par Johan Guillard, qui est le saxo des Fils Camonouche depuis 2008 et qui a décidé de monter une espèce de side project qui a fière allure parce que qui réunit quand même un peu, on va dire, la fine fleur du jazz touche lavallois si on veut aller par là, parce qu'il y a quand même Jean Duval et Jérémy Bécher pour ce qui concerne la batterie, les percus, le steel drum,
le vibraphone.
Il y a Mathieu Kellen à la batterie, un des comparses de
la guitare.
Mathieu Kellen à la guitare, un comparse de Johan pour les Fils Canouche. Benoît aussi Piquet, qui est à la contrebasse, aussi un membre des Fils Canouche. Et puis j'ai Johan au sax. Donc l'histoire en fait de ce band, on va dire, est assez récente, hein, puisque en fait elle arrive depuis, elle est assez récente puisqu'elle est née en 2009 lors des ateliers de jazz. Le festival de Mélodie du Maine, où justement Jean-François Laudeau, le directeur artistique, leur avait confié, avait confié surtout à Johan une carte blanche, et lequel s'en est saisi, s'en est accaparé d'une manière assez extraordinaire, puisqu'il a créé un répertoire original pour des musiciens mayennais. C'est ça qui me fait assez rire, pour des musiciens mayennais.
Mais c'est surtout. Est-ce qu'on compose différemment pour des musiciens mayennais?
Voilà, c'est une question. Voilà, si Gamat, tu peux répondre à ça après. Enfin voilà. Et l'idée, c'était surtout de créer un répertoire original, donc composé de morceaux surtout instrumentaux, pratiquement pour tout, et une sorte de patchwork d'influence perso très orienté jazz, funk, world, groove. Donc succès immédiat pour l'histoire, puisqu'ils ont joué, je crois, devant 500 personnes. Super bon retour lors de ces ateliers-là. Et puis, la vie passant, les enfants arrivant,
les bébés,
les Fils Canouche, les allumés du bidon et tout ça. Bref, enfin, Johan Guillard avait toujours ça dans sa petite tête et se dit, si on mettait ça. Donc, 2011, retour du Marabout Orchestra, avec un premier concert à l'huisserie l'été dernier, et puis une envie surtout d'enregistrer un album. Donc, cet album, en fait, est devenu un EP pour des raisons budgétaires. Voilà. Comme quoi, l'adage peut se vérifier. On a des idées, mais pas d'argent. Mais enregistré et mixé surtout en temps réel par la fine oreille de Thomas Ricou. notre Thomas Ricou local, donc morceau et chorus joués en une seule prise, en live.
Ouais, c'est ça.
Donc
ouais.
Ça, c'est assez extraordinaire parce que en fait, ce qui ressort un petit peu de ce disque-là, c'est surtout une musique super vivante. Un groove extra, enfin jazz groove. Alors il parle d'ethno-funk, etc. Mais voilà, c'est fait de super moments où chaque musicien, en plus, ce qui est intéressant, ça apporte sa touche personnelle sans jamais tomber dans la surenchère technique. Mm. Ce qui peut, même si tu es un aficionados du jazz, mais ce qui peut être parfois un petit peu l'écueil quand tu écoutes ça. Mais là, il y a vraiment un vrai groove et un vrai projet collectif. Et c'est ce qui m'a touché le plus. Quoi. Et puis pour l'avoir testé au bureau hier. Surtout, le groupe de cette galette surtout invite pour moi un déhanchement immédiat. Vous verrez ce soir. Alors, je pense que les artistes vont finir après ce morceau-là endiablés. Il y aura plus de pâté, ni de rillettes, ni de fût de bière. Enfin, ça sera la grosse fête. Enfin bref, ouais. Donc côté scène, surtout, c'est que l'objectif, pas de tourner comme des malades. C'est surtout de cibler un démarchage en visant surtout des lieux, comme ils étaient institutionnels, donc le 6 par 4, pourquoi pas.
le message est lancé.
Ouais, bien reçu aussi, bien reçu. On attend. Et surtout des festivals de jazz régionaux. Donc le morceau qu'ils ont choisi se nomme l'Afrobeat. Hein. On retrouve
l'humour des fils canouches.
L'humour canouchien dans le titre de ce morceau que Johan a écrit en pensant, bien sûr, à Fela.
Oui,
le père de l'Afrobeat. Donc voilà, c'est un vraiment premier coup d'essai réussi pour ce projet plein de fraîcheur. Et légitimement nous invite à poser la question suivante. Eh oui, j'ai une question pour une fois. Un vent nouveau soufflerait-il sur la scène locale ? Voilà, vous avez 4 heures. We'll be right back.
Yeah, yeah, donc l'Afrobeat par le Marabout Orchestra, pour ceux qui ont kiffé, comme on dit chez les jeunes, enfin comme disaient les jeunes, parce que je sais plus ce que disent les jeunes en fait moi. Mais donc le Marabout Orchestra a un Bandcamp. Bandcamp, c'est un peu le site qui remplace MySpace si on veut. Donc vous pouvez écouter de la musique, écouter les derniers morceaux du Marabout Orchestra. Vous tapez Marabout Orchestra avec un K à Orchestra sur Google et puis vous allez trouver ça et on peut même acheter leur EP sur Google sur Bandcamp à 3,50€, voilà, tout est dit. On discutait en écoutant ce morceau, je sais pas du coup Sébastien si t'as pu jeter une oreille à ce qu'on entendait, je n'imagine que tu ne connaissais pas ce groupe.
Et non.
Voilà. Et non. Mais pourtant tu es un féru de jazz a priori puisque tu t'animes cette émission dont on parlait tout à l'heure en intro quand le jazz est là. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette émission? Puis bah, aussi, voilà, est-ce que c'est réellement le cas? J'imagine que tu es fan de jazz pour animer une émission de ce type.
En fait, j'aime le jazz depuis pas mal de temps. Un féru, je ne suis pas sûr, par rapport à Julien notamment, avec qui j'anime l'émission, qui lui est un vrai féru de jazz. Je suis un gros amateur de jazz, on va dire. Mmh. Je suis un gros amateur de beaucoup de musique, hein, de fait, de mon boulot. Ça m'a ouvert pas mal vers des musiques que j'écoutais pas du tout il y a 20 ans et que j'écoute assez volontiers maintenant. Pour revenir au jazz, tu parlais du festival de Mellet, donc je fais de la promo pour la prochaine émission qui pour la nôtre, donc quand le jazz est là, qui est mardi prochain, donc nous on doit être à la 37e maintenant.
D'accord.
On vous a dépassé un petit peu.
Donc on va te vouvoyer ce soir. Alors.
Tu peux.
C'est vrai qu'on avait mal jugé notre invité, pardon.
Eh oui, ça,
Monsieur Pelé.
36e peut-être. Ah. Et donc on a reçu samedi, donc pour une fois elle sera pas en direct mardi soir parce que Jeff pouvait pas, mais donc on a reçu samedi dernier Jeff Landau, donc le programmateur du festival de Mellet, qui vient comme tous les ans nous présenter son festival au cours d'une émission entière. Donc voilà, donc il y a une très très belle prog cette année encore à Mellet. Et voilà.
J'allais dire encore effectivement parce que c'est vrai qu'en général, ils nous réservent des belles choses, des bonnes choses.
L'année dernière, on a eu des belles soirées, hein, notamment la soirée avec Tigran Amassian et puis, je vais pas retrouver son nom.
Oui, c'était en duo. Mais...
Oui, bon, c'est pas bien, c'était un quatuor, mais c'était assez étonnant. Bon, cette année, il y a une soirée avec Ibrahim Malouf, notamment, qui promet beaucoup. Et une soirée, entre autres, et le samedi soir, avec le Sacre du Tympan.
Oui, qu'il avait déjà invité il y a quelques temps.
Ça va dépoter pas mal, quoi.
Je reviens juste sur cette émission de jazz. Peut-être que finalement, si tu as fait cette émission, c'est une question de curiosité. C'est aussi parce que ça permet finalement de découvrir des choses. Finalement, on se met un petit coup de pied au cul, de se dire allez, je fais une émission de jazz, je ne suis pas forcément un spécialiste, mais je fais ça avec un mec qui connaît bien. Et du coup, au final, je vais apprendre en faisant et je vais découvrir en faisant.
Bah, en fait, c'est un peu un hasard cette émission. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé en Mayenne, je venais de Bretagne et je faisais déjà de la radio. Et j'ai mis les pieds dans un bar à Château-Gontier pour aller sur Internet et je suis tombé sur Transistor.
D'accord.
Et il y avait un petit encart qui disait radio se monte à Château-Gontier. Et j'ai pris mon portable, j'ai appelé tout de suite Christophe. Donc je suis tombé sur Christophe tout de suite qui m'a dit bah ouais, si tu veux, il n'y a pas de problème. Et voilà, j'étais à une réunion et moi j'étais plutôt parti faire une émission sur la musique du monde.
D'accord.
J'avais envie de changer et pour le coup, c'est pas un domaine que je connais très bien, mais justement, ça allait dans cette optique-là de me foutre quelques coups de pompe au cul et d'essayer de travailler sur ces musiques-là. Mm. Et il y avait un petit gars dans le coin, tout timide, qui vient me voir à la fin du truc, il me dit ouais, j'ai jamais fait de radio, j'aimerais bien faire une émission sur le jazz. Et je lui dis on a qu'à faire une émission ensemble sur le jazz et musique du monde. Ce qui a été le cas souvent d'ailleurs, et souvent dans notre émission, il y a quand même pas mal de musique du monde. On est tous les deux des grands fans de Oud. Et par exemple, voilà, tu vois des gens comme Ibrahim.
Intègre des instruments.
Anwar Brahem notamment. Voilà.
Ouais. Intègre des instruments traditionnels dans le jazz. Quoi.
Voilà, et du coup, c'est plus une émission quand même sur le jazz qui est souvent basée sur des découvertes que moi je fais par rapport à des acquisitions que je peux faire pour la bibliothèque et aussi sur des découvertes qu'on peut faire sur Internet maintenant.
Mais tu parlais de jazz, mais tu as quand même des goûts très très éclectiques puisque tu parlais aussi de musique du monde. C'est en fait un peu à l'image de ta sélection, puisque comme on t'a demandé de faire une petite sélection ce soir, qui est finalement très rock.
Ouais, mais je suis plutôt fan de rock en fait.
Ouais, t'es un peu fan de rock. Mais en fait, parlons-en justement de cette sélection-là, parce que je crois que t'as eu beaucoup de mal à faire des choix par rapport à ça. Donc ouais, ça a dû être compliqué pour toi.
C'est un peu une torture cette sélection.
Ouais, surtout en 5 morceaux, c'est pour ça que j'en ai proposé 9.
Ouais, mais t'es à la 36e émission, t'as le droit d'en avoir un peu plus.
Et vous permettrez de les enchaîner, éventuellement de les écourter, ce que je me permets.
Non, on ne fera pas ça.
Bah, nous en jazz, on est un petit peu obligé des fois, parce que tu vois, on a fait une spéciale Miles Davis il y a pas très longtemps. Et Miles Davis, quand tu vas dans sa période années 70, t'as que des morceaux de 20 minutes.
Ouais. Donc... Je crois que j'ai souvenir d'avoir Jeff aussi pour l'émission Transistor, qui avait ramené aussi pas mal de sa discothèque idéale, qui avait été assez longue.
On avait été obligé de faire des coups.
On avait fait auto. Bah,
après, c'est l'avantage de bosser sur une radio libre,
ouais,
qui est vraiment libre. On n'est pas tenu à passer des morceaux de 3 minutes, quoi. Ouais. Mais oui, ça a été une véritable torture. Et là, j'ai mis que des choses qui sont un petit peu en lien les unes avec les autres, en fait. Parce que tu vois, quand je propose le morceau de Joy Division par Rodolphe Burger, c'est parce que j'aime aussi Joy Division.
Ouais, c'est une paire de coups.
Quand je propose Gloria par les Zen, c'est que je voulais pas passer sur Patti Smith, mais j'ai un certain culte pour Patti Smith. Tu vois,
ouais.
Enfin, bon, c'est tout s'enchaîne plus ou moins. J'aurais pu passer aussi du Led Zeppelin, j'aurais pu passer plein de choses. Enfin, et j'aime beaucoup. Enfin, je suis assez fan de petites pépites des années 60 en rock garage, des choses comme ça, des trucs, des groupes qui ont fait un album et qui ont disparu de la circulation.
Justement,
j'en
avais discuté avec toi de cette petite passion pour le rock garage. J'étais surpris de ne pas en retrouver dans la sélection, du coup.
Ben justement, j'ai pas voulu me creuser plus que ça.
Ouais, ouais.
Tu vois. Là, j'ai voulu faire quelque chose d'à peu près consensuel, mais j'aurais pu aussi passer du français. Tu vois,
on te réinvitera pour une prochaine émission. Hein.
Ouais, il faudrait qu'on fasse une émission rock pour de vrai et d'aller. Il y a de quoi faire, quoi.
Ah bah ouais, je pense qu'il y a du volume, c'est sûr.
Il y a du gros volume, ouais.
En tout cas, on a dérogé à la règle, puisqu'en général, on passe 5 morceaux, 6 morceaux. Là, on est à 9 morceaux, donc voilà, t'es un peu un privilégié.
J'en ai mis un, c'est de l'actualité quand même. Dylan passe aussi ce
bah
par
ouais, le 23 mars.
C'est une découverte récente, tu m'as demandé de regarder.
Magnifique.
Je suis un peu embrouillé dans mes découvertes récentes, donc du coup, j'ai repéré surtout Dylan et Liz Green qui passe aussi d'ailleurs.
Le Liz Green qui passe au mois d'avril, ouais, voilà. Sur un Sunday donc, Shining, je crois.
Donc on va reparler de tout ça. Justement en fin d'émission, parce que Dylan, je crois qu'on l'a programmé plutôt en fin d'émission. Peut-être parler du premier morceau qui va ouvrir cette sélection, du coup, un morceau de Pink Floyd sur leur premier album. Pourquoi t'as choisi ce titre-là?
Parce que je trouve que c'est un morceau hyper étrange. J'ai surtout choisi cet album-là de Pink Floyd pour pas avoir à choisir d'autres. J'aurais été tenté de partir sur Umaguma éventuellement, mais alors pour le coup, là, on était parti sur du 20 minutes.
Ouais,
aussi.
C'est pareil, c'est des durées un peu étirées.
Mais Pink Floyd, c'est vraiment un groupe qui me suit depuis mes 15 ans, quoi, je veux dire. Alors pourquoi cet album-là? Parce que c'est un des albums que j'ai découvert le plus récemment.
D'accord.
Alors que c'est le premier album.
Moi, j'ai découvert Pink Floyd à l'époque de The Wall.
Comme beaucoup,
et
je pense.
Et Dark Side of the Moon, enfin, toute cette période-là. Et je suis remonté sur le Pink Floyd plutôt 64, il me semble.
67.
Ou 67.
Ouais.
Et je suis remonté sur ce Pink Floyd-là par la suite. Plus en découvrant justement tous ces groupes des années 60. Quoi.
En voyant cette sélection-là, je me suis dit peut-être que c'est un fervent... parce qu'il y en a défenseur de Syd Barrett et qui n'estime que Pink Floyd n'avait de valeur qu'avec Syd Barrett, mais non, a priori...
Non.
Tu sais, il y a ces genres de combats des fois.
Non, pas vraiment. Non, je rentre pas trop là-dedans.
Oui, c'est un peu ridicule.
Je pense que c'est un peu ridicule. Ouais, ou alors, il fallait passer du Syd Barrett directement.
Oui, voilà. Bon, du coup, on va l'écouter un peu, Syd Barrett, avec Pink Floyd, sur un morceau qui s'appelle Astronomy Domain. We'll be right back.
comes around here just about midnight. She make me feel so good. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch you come to my house. You knock upon my door. And then you come to my room. Then you make me feel alright.
Et voilà, c'était Gloria, la formation Svem, de 1964, un des grands classiques du rock, rejoué par deux pelletés de groupe.
Ouais, ouais.
C'était, ça correspond un petit peu à tes ces premiers choix-là, tes premiers émois musicaux, on va dire.
Pink Floyd, Them.
Bah, plus
c'est
là,
un peu la même période
plus
en plus.
Plus là, parce que ça devait être à l'époque où je commençais un peu à gratter. Et là, il y a trois accords, donc trois accords assez simples à enchaîner.
Il y a pas mal de guitaristes qui se sont exercés sur Gloria, je pense.
Oui,
je pense.
Sur beaucoup de morceaux, d'ailleurs.
Ouais. Il n'y a pas eu que Jose Interdit.
Ouais. C'est... Ou aussi, il y a eu aussi. C'était Wet to Even, quoi.
Ouais. Oh, qui était un peu plus technique déjà.
Et Smoke on the Water, Water aussi.
Voilà, par exemple.
Ouais. Celui-là, c'est un peu le.
Quand tu les passais, tu levais des filles, quoi.
Ça, c'est clair.
Donc, si on comprend bien, tu t'es mis à la guitare pour draguer.
Ouais, mais souvent c'est les potes qui partaient parce que moi j'étais à la guitare. Je jouais assez mal, donc c'est les potes qui partaient avec les filles. Moi je restais avec mes potes.
Alors, on va revenir justement sur ces premiers émois musicaux. Enfin, toi, tu découvres la musique rock, je pense, vers quel âge? Et tu te mets déjà à faire de la musique à cette époque-là, de la guitare, tu joues dans des groupes
Bah, pas vraiment. Pas vraiment, en fait, je suis un peu un imposteur dans le monde des bibliothèques et discothèques, parce qu'en fait, j'ai mon premier bouquin, j'ai dû le lire en entier vers 18 ans.
Oui.
Et non, à cette époque, quand j'étais ado, moi, je viens de Seine-Saint-Denis, en fait, hein, et c'est assez amusant à situer, parce qu'en fait, dans le bahut où j'étais, quand t'étais blanc et que t'avais un peu de cheveux, t'écoutais du hard rock, et t'avais des patchs plein le blouson, et puis les copains qui étaient plutôt basanés écoutaient plutôt de la funk.
Ouais.
Il n'y avait pas d'antagonisme du tout, on était potes, hein, il n'y avait pas de soucis, ce n'était pas la banlieue qu'on connaît maintenant. Mais c'était assez marqué comme ça, c'était assez étonnant. Donc en fait, moi j'écoutais beaucoup de Led Zepp, beaucoup d'AC/DC, de groupes bidons type Saxon, des choses comme ça. Mais, voilà.
Il n'y a pas de honte?
Non, il n'y a pas de honte, mais quand tu réécoutes maintenant, ça fait drôle.
Ouais, c'est vrai que les groupes de hard français...
D'avoir quelques émois sur... Bon, Saxon, c'était anglais en l'occurrence, mais ouais. D'avoir... Mais il y avait quelques groupes de hard français type Trust. Hein,
oui, voilà, ouais, je pense à ça, moi, particulièrement.
Heureusement, on a eu un bon appel d'air derrière avec des mecs assez affreux, genre les Berrues qui sont arrivés et qu'on foutu un peu de coup de pied là-dedans, parce qu'il ne se passait pas grand-chose.
Fameuse époque du rock alternatif, enfin...
Voilà, ouais, il se passait pas grand chose d'officiel.
On va dire
cas.
Dans le rock français. Voilà.
Mais dans le rock underground, il se passait pas mal de choses quand même. Mais bon, rien n'était diffusé. Et... Voilà, donc la musique, j'en écoutais comme ça, sans être un féru de musique réellement, quoi. En fait, c'est la passion m'est venue que bien plus tard.
Mais oui, en écoutant et comme tu parlais tout à l'heure de tes tentatives de la gratte de drague, ça t'a jamais chatouillé non plus à cette époque-là de vouloir absolument faire un groupe ou de monter quelque chose comme ça?
Si, mais je suis assez feignant de nature et il aurait fallu que je bosse un peu plus quand même.
Ouais.
Donc non, pas vraiment. Maintenant, ça me triture un peu plus, mais bon, la quarantaine arrivant, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, quoi.
C'est le moment ou jamais.
Ouais.
Ouais. Et comment t'en viens justement à ce métier que t'évoquais, que tu occupe aujourd'hui de discothécaire? C'est quoi d'ailleurs un discothécaire? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément connu. D'ailleurs, le mot discothécaire, en fait, il y a quelques dizaines d'années, c'était utilisé pour désigner les disc-jockeys en boîte de nuit. Je sais pas si tu sais ça.
Non, je sais
mais
pas.
Tu n'es pas disc-jockey.
Je vois pas encore.
Ah, moi, je connaissais pas non plus.
Ah, si, il disait discothécaire.
Bah, en fait, c'est.
C'est vrai.
Avec le disque. En fait, ça doit être. Toi, là, t'imagines.
La musique est arrivée dans les bibliothèques après le livre. Mm. Bon, bibliothèque, la racine ramène vers le livre et il fallait bien se trouver un nom à un moment donné. Donc, c'est pas un nom officiel, discothécaire. Hein. C'est, on s'appelle comme ça entre nous.
Ah, d'accord.
Dans le petit milieu du discothécaire. Certains disent bibliothécaire musical, mais dans le même temps, ça ne veut pas dire grand-chose.
Bah ouais.
Voilà quoi. Donc, comment j'y suis arrivé, ça va être une longue histoire encore, que je vais essayer de raccourcir très vite. Je me suis barré à Nîmes pendant 3 ans, autour de. J'avais 25-26 ans. Et là, je me suis retrouvé complètement plongé dans une espèce de bohème à fréquenter pas mal d'artistes, de jeunes artistes créateurs plastiques. Et tous, on était tous un peu expatriés, il n'y a aucun Nîmois dans le lot. Et on passait nos soirées dans les bars Nîmois, qui sont assez réputés pour certains pour diffuser de la bonne musique. Et voilà, côtoyer des musiciens, côtoyer, à faire des fêtes. On a monté une assoce d'artistes au nom d'Outeux de Dardar à l'époque. Et notre gros but, c'était de faire des fêtes, quoi, en gros, des vernissages et des fêtes. Et donc,
c'est un objectif assez louable.
Donc voilà, c'est un objectif assez louable. Et du coup, j'ai rencontré pas mal de gens là qui m'ont vraiment initié à la musique. Et un tout petit peu avant, je me rappelais ça cet après-midi. En fait, je me suis vraiment initié à la musique à l'armée, paradoxalement.
Eh oui.
J'étais un vrai planqué dans une caserne parisienne en civil, et je bossais avec un mec qui était aussi planqué que moi, qui était lui pour le coup un vrai vrai féru de musique, qui avait bien compris mon inculture là-dedans, et qui tous les jours me ramenait 3 disques.
Ouais, comme ça. C'était et tous les soirs, je
rentrais. Voilà, c'était la règle. Et tous les soirs, je rentrais chez moi avec 3 disques que j'écoutais et que le lendemain, je lui ramenais. Et puis je disais, bah, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Et voilà, petit à petit, comme ça, de fil en aiguille, ma culture musicale s'est faite.
Mmh. Grâce à ce prescripteur, en fait.
Bah, grâce à ce prescripteur qui m'a mis sur les rails. Et du coup, la virée de 3 ans sur Nîmes m'a vraiment orienté encore plus vers la musique. Alors pourquoi les bibliothèques ? C'est qu'une fois arrivé dans une bonne impasse à Nîmes, j'ai dit, bah, je vais peut-être remonter sur Paris quand même. Et un jour, certainement en rentrant de l'ENPE, où j'avais une fois de plus pas trouvé de boulot, je passe devant un chantier de médiathèque qui se construit. Et je tombe sur une femme que je connaissais bien, qui était l'ancienne directrice de la bibliothèque, et qui me dit, bah, pourquoi tu postulerais pas là ? Ils embauchent. Et voilà, donc j'ai postulé, j'ai été embauché.
Mais oui, donc en fait...
C'est un conte de fées que tu nous
racontes. C'est quasiment un conte de fées, parce que je suis un imposteur. J'ai pas fait d'études pour être...
Non, bah voilà, bah, justement, ça pète un peu la question que je voulais te poser, justement. Mais bon, de manière générale, pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient être des futurs discothécaires, on va dire, même si c'est pas un nom officiel, mais donc l'armée n'existe plus, c'est foutu.
C'est foutu.
Bon, il y a encore quand même pas mal de bars où tu peux faire des fêtes, mais il y a des diplômes pour ça en fait aujourd'hui. Il y a, comme tu dis, enfin tu parlais de bibliothécaire musical, il y a une préparation, enfin universitaire, il y a des choses comme ça qui.
Il y a un DUT métier du livre qui existe avec des. Bon, ne l'ayant pas fait, je suis pas hyper pointu là-dessus.
D'accord. Ouais.
Il y a un DUT métier du livre qui existe avec des modules qui sont consacrés effectivement à la gestion de fonds musicaux. Mmh. Voilà. Après, c'est des boulots qui s'apprennent sur le tas. Hein. C'est, qui s'apprennent. Voilà, tu apprends. T'as des gens comme moi qui rentrent par la petite porte et qui petit à petit passent les concours. Bon, c'est de l'administration. Hein,
voilà,
donc, tu passes les concours et tu te formes. Mais bien généralement, tu te formes un petit peu. Bah, c'est un peu les collègues qui te forment aux techniques, aux différentes techniques. Après, pour ce qui est de la formation musicale, bah, tu te la fais tout seul. Hein.
Ouais. Et puis, j'imagine, dans l'imaginaire. Collectif, j'imagine quand même qu'une bibliothèque musicale suppose quand même une culture musale relativement importante, des rudiments par rapport à cela.
En tout cas, ça demande un vrai éclectisme. Mmh. Parce que le public qu'on a en face de nous peut très bien aimer que le classique ou aimer que le jazz ou que le rock. Et il ne s'agit pas de leur forcer la main, mais il s'agit pour nous, à partir des collections qu'on peut avoir, d'essayer, quand on sent les gens plutôt réceptifs, à les emmener vers, à les sortir un petit peu de ce qu'ils écoutent habituellement et de les amener vers de la découverte. Mmh, mmh. Donc ça demande effectivement d'avoir une relative connaissance quand même de la musique, de manière à bien identifier quels sont les besoins que peuvent avoir les gens en face de toi. Mmh. Pour exemple, ça m'arrive. Bon, là, j'ai plus de public moi, en bibliothèque départementale, mais quand je bossais en bibliothèque municipale, il m'arrivait d'avoir des gens qui viennent me voir, qui me disent, bah tiens, moi j'aimerais bien m'initier au jazz, mais j'y connais rien, je sais pas par quoi commencer.
Mmh. Allez, faut savoir répondre à ça.
Ouais. Et donc du coup, c'était de partir de. Alors si
faut
la personne
les,
était,
faut pas aimait... les envoyer vers du free jazz, quoi.
Par exemple. Ouais. Et si la personne, par exemple, aimait plutôt le classique, et eh ben, je lui disais, bah, peut-être vous orienter vers Jacques Loussier, par exemple, qui est quelqu'un qui reprenait beaucoup de compositeurs classiques à la sauce jazz. Donc, du coup, ils avaient ce socle, parce qu'ils connaissaient la mélodie qui était jouée, mais ils comprenaient toute la moulinette jazz qui était derrière, parce qu'ils avaient une base de départ. Ou alors, je pars sur, vous aimez quel instrument ? Puis voilà, si c'est quelqu'un qui aime la guitare, et ben on va plutôt orienter vers des guitaristes. Effectivement, on ne va pas les balancer sur du Ducret d'entrée, parce que sinon, ils vont peut-être partir en courant, mais sur des gens comme Sylvain Luc, qui sont plus consensuels, ou Django Reinhardt, ou d'autres personnes. Quoi. Voilà, la culture musicale qu'on doit avoir, elle est basée là, quoi.
Elle est fondée surtout sur, comme on parlait tout à l'heure, prescription. Avant tout, t'es prescripteur par rapport à ça, qui permet d'orienter par rapport à la demande. En fait.
Ouais, prescripteur. Moi, je suis toujours parti du principe qu'on est prescripteur, mais on détient pas forcément la bonne parole.
Sûr, ouais.
Ça, c'est important. Enfin, c'est ma vision du boulot qui pour moi est importante là-dessus, parce que. Par exemple, quand je bossais à Pontivy, avant de venir ici, là pour le coup j'avais du public et notamment j'avais un type qui vient me voir un jour qui voulait un conseil n'importe lequel. Il me dit faites-moi découvrir un truc. Je sais pas, je suis tombé sur un disque de rock progressif, alors je sais plus quel groupe. Moi je lui passe, je lui dis bah écoutez ça, a priori c'était quelqu'un qui était plutôt jeune, qui aimait plutôt le rock, donc mais il connaissait pas le rock progressif. Et il tombait fou amoureux du truc. 15 jours après, il vient me voir, il me dit j'ai tout lu là-dessus. Enfin bref, il m'en faut d'autres. Bon, j'avais une petite discothèque dont je pouvais pas fournir énormément. C'est pas comme une BDP par exemple, où j'avais pas de BDP sur qui m'appuyer pour récupérer des disques éventuellement pour lui passer. Et en contrepartie, le type était un féru de métal, mais de très bon métal, enfin de la scène métal actuelle. Moi, j'avais décroché du hard rock depuis longtemps et qui m'a fait découvrir des groupes comme Neurosis, Opeth ou Tools ou des groupes comme ça. Et du coup, j'ai quasiment fait le fond métal de Pontivy à partir des conseils que ce type me donnait. Bien sûr, en allant vérifier à droite à gauche, quand même, on a quand même pas mal de sources maintenant d'informations et de validations éventuellement de ce qui est bon et ce qui est moins bon.
Ouais.
Et voilà, donc tu vois, c'est
un échange.
Et moi, pour moi, c'est important, ça. C'est ce que j'essaye de faire avec les gens avec qui je travaille sur les bibliothèques de la Mayenne qui ont des disques et qui travaillent avec moi, enfin qui empruntent des disques à la BDP pour les retransmettre à leur public. C'est cette espèce d'échange qui me semble important, et surtout l'échange qui est basé sur l'émotion que procure la musique qu'on écoute. Quoi.
Johnny Cash, c'est ton troisième choix.
Ouais,
tu peux nous parler un peu de Mr. Johnny Cash. Il y a beaucoup à dire sur Johnny Cash.
Il y a beaucoup à dire sur Johnny Cash. Je sais pas pourquoi j'aime ce type. Je sais pas quand est-ce qu'il est rentré dans ma vie. J'en sais rien. C'est la première fois que j'ai entendu Johnny Cash. J'avais l'impression d'avoir toujours entendu Johnny Cash. Et voilà. Donc là, c'est plutôt la période fin de Johnny Cash. Hein.
C'est sa période.
C'est les derniers enregistrements qu'il a fait chez Geffen, il me semble, à l'époque.
Avec Rick Rubin. C'est des enregistrements. Trois séries d'enregistrements American Recording. Ah
ouais, voilà,
c'est American Recording. Ouais.
Et donc c'est pas la partie de Johnny Cash rockabilly ou rock'n'roll du départ, c'est plutôt la partie Johnny Cash folk country, quoi, en fait.
Peu dans la douleur.
Suite,
ouais.
Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue. But that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Don't
know that I will, but until love can find me, and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man. Hard and ambitions are low, and resentment rides high, but emotions won't grow, and we're changing our ways, taking different roads, and love will tear us apart again. Why is the bedroom so cold? Turned away on your side. Is my timing that flow? Our respect runs so dry. Yet you still disappear. That we kept through our lives. When love will tear us apart again. Love will tear us apart again.
had a taste in my mouth as desperation takes hold. Is it something so good just can function no more? But love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again.
Love Will Tear Us Apart par Rodolphe Burger sur son dernier album, il me semble, Valley Session, en 2009. Une chanson qui n'est pas de lui, puisque vous aurez sans doute peut-être en tout cas reconnu un des morceaux phares de Joy Division. Donc j'imagine que ton choix, Sébastien, sur ce morceau, c'était à la fois, et tu nous le disais d'ailleurs tout à l'heure, un amour pour, enfin en tout cas, tu es amateur de la musique de Burger, mais aussi de Joy Division, sans doute. Donc ouais. Ça faisait d'une pierre deux coups.
Oui, c'était complètement ça. Et Burger, comme c'est, je crois, ma dernière émotion en concert, parce qu'il est passé à Château-Gontier en décembre, au Carré, voilà. C'est quelqu'un que j'aime énormément depuis très longtemps, Rodolphe Burger. Joy Division, paradoxalement, moins. C'est marrant, c'est un groupe que j'ai découvert avec le film, Closer.
Ouais. Control.
Control, Control, ouais. Ouais. Closer.
Closer, c'est un album de Joy Division aussi.
Voilà. Ouais. Et c'est un pote qui m'a traîné là-bas parce qu'il savait que j'aimais pas ce genre de musique. J'étais pas grandement fan de ces groupes anglais.
Cold Wave.
Cold Wave, voilà. Et le film m'a vraiment touché et du coup la musique aussi m'a touché. Et depuis, j'écoute Joy Division. Et cette reprise est fabuleuse, quoi. Elle est beaucoup moins cold, hein, pour le coup. Elle est un peu plus chaude avec la voix de Rodolphe et sa guitare, mais voilà. Au même titre que Gloria tout à l'heure, qui était un clin d'œil à Patti Smith, que j'ai eu la chance de voir à Saint-Brieuc il y a quelques années là, à Art Rock. C'était un super concert, voilà.
Et on revient sur Burger, c'est un artiste aussi que t'aimes bien peut-être par son goût de l'aventure, de l'expérimentation, de l'idée de pas faire une carrière mais plutôt de tenter des choses, de rencontrer des gens, de voilà. Est-ce que c'est ça que t'aimes aussi dans sa façon de mener son chemin?
En tout cas, ouais, c'est le chemin qu'il mène depuis quelques années. Et je trouve ça plutôt intéressant. Effectivement, on a l'impression qu'il se met vachement plus au service des autres. Lui a l'impression qu'il a fait énormément de choses avec Katonoma. Il en a fait pas mal sous son nom aussi. Et maintenant, voilà, il se met au service des autres. J'ai cru voir qu'il y avait un album de reprise du Velvet là qui va sortir. J'ai vu ça sur mon fournisseur de disques aujourd'hui, je crois.
Je ne sais pas s'il va reprendre un album.
Mais il me semble que j'ai cru voir.
Il y a un concert en ce moment, en tout cas, où il tourne avec un répertoire du Velvet.
Ouais.
Et effectivement, c'est intéressant ce qu'il a pu faire avec. Bon, tu sais, Carla Bruni, alors je ne sais pas ce qu'il a fait avec elle, mais.
Non, mais je ne veux pas.
La musique.
Des fois que les RG nous écouteraient, on va éviter de parler de Carla.
On ne va pas se faire arrêter ce soir, merde.
Mais ce qu'il avait pu faire avec Jeanne Balibar, notamment, c'était plutôt pas mal. Enfin, bon, et il y a toujours cette patine, tu vois. Tu écoutes l'album de quelqu'un sur lequel elle a bossé, tu te dis, oh là, la guitare, ça va être Burger.
Il y a un marqueur sonore quelque part.
Et je l'avais vu au Vieille Charrue avec Bachoug, notamment, il y a quelques années aussi.
Belle paire, ouais.
Voilà, et puis ce mec, quand il arrive sur scène, voilà, bon, il arrive avec sa guitare. Argenté là, qui c'est pas la Gretsch, mais une petite guitare argentée
qui est
assez génial, ouais. Et puis bon, ça part, quoi. Il arrive avec ses 2 mètres et sa grosse voix, et c'est génial, quoi.
Tu parlais justement de Burger par rapport à son aptitude à se mettre au service des autres. Bah, on va revenir un petit peu sur ton boulot de discothécaire. C'est quoi ton rôle exact aujourd'hui par rapport à cela? Tu parlais de BTP, etc.
BDP. Le BTP, c'est autre chose.
Même si autour de la BDP, on est un petit peu dans le BTP en ce moment, parce qu'ils refont un peu toutes les canalisations sur Saint-Berthe.
Ah bon, tu travailles chez Bouygues?
Et non, pas encore.
Excuse-moi, mais c'est quoi un petit peu ton rôle exact par rapport à ça?
Voilà. J'interviens à différents niveaux, en fait. J'ai pas de public, c'est une bibliothèque. Les bibliothèques départementales, c'est les bibliothèques qui n'ont pas de public direct. On ne reçoit pas de grand public. Par contre, on s'adresse à des bibliothèques dans des villes de moins de 15 000 habitants. Donc en Mayenne, il y en a une flopée qui sont en ce cas-là. Et en règle générale, je ne parle même pas que de la musique, on a un rôle. on a un rôle de soutien vraiment à ce réseau de bibliothèques. Parce que beaucoup de bibliothèques en milieu rural sont tenues par des bénévoles, dans des équipes de bénévoles, et donc qui sont souvent encadrés par ce qu'on appelle les bibliothécaires intercommunaux, donc qui sont eux pour le coup des statuteurs, enfin des professionnels, mais voilà, qui sont pas en poste directement sur des bibliothèques. Et notre rôle donc c'est d'épauler ce réseau. D'une part en leur ramenant, en leur renouvelant leur collection. Donc nous on achète beaucoup de documents, donc que ce soit des disques, des livres, et par l'intermédiaire de tournées, bon, dans le cas des disques notamment, moi j'ai un bibliobus, enfin j'ai un médiabus qu'on appelle, j'ai 2000 disques dedans, et donc je me déplace deux fois dans l'année sur chacune des bibliothèques qui ont des fonds CD, donc c'est une vingtaine en Mayenne, et à chaque fois j'y vais et on échange 300-350 disques. Voilà. Donc ça c'est la partie principale du travail. Après, moi j'ai un fonds de, enfin je dis moi, à la BDP on a un fonds de une vingtaine de mille disques, milliers de disques.
20 000 disques.
Ouais, à peu près. Ouais.
D'accord.
Et du coup, c'est qui ont été achetés depuis les années 80-90. Donc tu vois, tu peux imaginer ce que ça fait, même si les collections sont renouvelées et un petit peu
écrémées,
voilà. Et donc nous on s'efforce de suivre vraiment, d'avoir des fonds très très éclectiques et très complets, de manière à ce qu'eux puissent puiser dedans. Donc, ouais, de par ces échanges, mais aussi de par des demandes de leurs usagers. Les usagers viennent les voir, leur disent bah, j'aimerais bien avoir le disque de Laurie de Berlin, par exemple. Bon, ils n'ont peut-être pas forcément leurs fonds propres, parce que c'est quand même des bibliothèques qui n'ont pas des budgets faramineux. Et donc, bah, ils font une demande à la bibliothèque, et bah, s'ils sont une bibliothèque, on se débrouille pour le rapatrier, dans les meilleurs délais, pour le ramener. Quoi.
D'accord. Et du coup, c'est un peu le rêve d'un collectionneur, ça, d'avoir 20 000 disques à portée de main. T'es collectionneur, toi ou...
c'est le pied complet, ouais. Hein, c'est complètement. Ouais. Et du coup, avec ces fonds-là, voilà, par exemple, pour demain, là, je suis en train de préparer une valise électro, donc j'ai mis 100 disques dedans, toujours électro confondus, pour les déposer sur une bibliothèque qui fait une animation autour de l'électro. Bon, ça, c'est mon travail, toi, dans le fond que j'ai de faire des valises. Bon, on fait des expos, par exemple, des expos à partir de bouquins, d'affiches, de choses comme ça. Et voilà, donc ça c'est une partie de notre travail, c'est la partie sur les fonds. L'autre partie de notre travail, c'est une grosse partie de formation où on forme, nous ou par l'intermédiaire de formateurs qu'on fait venir, les gens qui travaillent sur ce réseau. Donc par exemple en musique, l'année dernière j'ai fait venir Christophe Brault, ouais, par exemple, qui est venu nous faire une intervention, parce que j'avais déjà vu dans d'autres interventions ailleurs, sur les musiques électro justement. Il était intervenu pendant une journée, bon, ce qu'il avait fait à l'université du temps libre,
ouais,
il me semble, sur Laval. Voilà,
sur l'électro oui, sur d'autres genres. Ouais.
Christophe, tu le fais parler sur ce que tu veux, de toute façon.
Voilà, ouais. Faudrait qu'on l'invite un jour aussi.
Où j'ai fait venir Gilles Rethel en début d'année pour causer un petit peu justement et la musique en bibliothèque, pourquoi encore et maintenant et comment. Voilà, ouais. Bon, des gens comme ça, où deux fois dans l'année, je fais une séance de 3 heures où je présente, alors c'est pas des coups de cœur, j'appelle ça un comité musique, hein, c'est très formel, mais je présente 100-150 disques qui m'ont un peu tapé dans l'oreille à un moment donné. Pas forcément des choses que j'aime d'ailleurs, hein, c'est des fois je leur passe et je leur dis j'aime pas spécialement ça, mais je trouve que dans ce genre donné, ça dénote. C'est intéressant. Donc, c'est des disques qui peuvent mettre en avant après dans leur bibliothèque ou qui peuvent aussi acquérir s'ils le souhaitent pour mettre dans leur fond.
Et justement, tu parlais de ces présentations-là, mais comment tu opères tes choix
ouais, c'est
ça,
très,
ça, ça, ça doit être compliqué, j'imagine.
C'est très arbitraire et subjectif, ouais, comme pour faire une liste, ouais, une playlist. En fait, j'achète à peu près 2000 disques par an. Donc il y a un traitement du disque derrière qui s'appelle le catalogage, c'est-à-dire on catalogue le disque pour le faire rentrer dans notre base, donc c'est de faire apparaître les titres, les genres et choses comme ça, et du coup au moment où je catalogue, j'écoute le disque. Donc généralement je catalogue un disque en 5-10 minutes, donc t'imagines bien que sur un disque ça t'écoutes pas trop, donc du coup ça me tape pas dans l'oreille, je zappe, je reviens en arrière,
donc,
j'écoute.
Ouais, c'est du coup de cœur au départ.
C'est du coup de cœur instantané. Alors je mets une petite étiquette dessus, je le laisse partir dans la circulation, et puis un mois avant de faire le comité, je récupère un petit peu tout ce que j'ai repéré, je réécoute et je me dis ouais non, c'est bon, on laisse tomber, c'est pas la peine. Ça oui, je garde. Ce qui veut dire dans cette méthode-là, c'est que le jour où je suis bien luné, bah, j'aime beaucoup de choses. Et le jour où je suis mal luné, il y a plein de choses qui passent à l'as, quoi.
Ouais, c'est le prof de philo qui corrige une copie et bah, t'as fait un super boulot bah, et en fait, non,
c'est,
merde.
C'est, malheureusement, c'est, des fois, je me dis c'est presque ça quand même. C'est pas comme un livre où un livre, t'es obligé de le lire pour savoir ce qu'il y a dedans et s'il vaut vraiment le coup. Un disque, bah voilà. Et souvent, tu vois, je m'aperçois que si le premier morceau ne me tape pas dans l'oreille, les autres vont avoir du mal à me taper dans l'oreille. Donc des fois, je me force un peu. Je dis, quand même, la critique, elle est bonne, parce que je n'achète pas comme ça, hein, j'achète sur des critiques, des choses comme ça. Ouais. La critique, elle est bonne, bon, d'accord, ça vient des un rock, mais il faut peut-être écouter un peu plus, quoi. Ça, tu vois, c'est... et voilà, et je passe forcément à côté de plein de choses. Et des fois, je m'en aperçois à contre-coup quand un truc fait le buzz et que je dis, tiens, je l'ai ce truc-là. Bah oui, effectivement, je l'ai. Je le réécoute, je fais, bah oui, putain, quoi, je suis passé à côté de ça, quoi. C'est, bon, après, on est humain, on est tout ce qu'on veut. Et après, il y a des disques qui me tapent vraiment dans l'oreille. Et du coup, je les ramène à la maison le soir, je les écoute un peu plus, quoi. Ou dans la voiture. Ou,
Mais tu disais, l'idée, c'est que ça dénote, en fait, dans un genre. En fait, c'est ça que tu recherches, et les choses qui vont justement sortir du lot, dénoter, être. Pas dans l'air du temps ou dans la redite ou enfin.
Oui, parce que je pense que ça servira à rien de leur transmettre des coups de cœur sur des choses convenues. En fait, eux, ça les aidera pas plus que ça. Il y a des fortes chances qu'ils les connaissent aussi. Alors le but, c'est pas de leur en mettre plein la vue, c'est au contraire de leur faire découvrir des choses parce que moi, j'ai la possibilité d'en acheter plus et donc d'en découvrir plus par rapport à eux. Il y a des gens qui bossent dans les discothèques, et notamment Delphine par exemple, en Douillet, qui est très férue de musique. Après, il y en a d'autres qui sont moins férues de musique, qui n'écoutent pas forcément plus de musique que ça, et du coup qui passent à côté de plein de choses et qui ne pensent pas les acheter, qui ne pensent pas les demander. Donc du coup, de les montrer en comité comme ça, ça leur permet d'aller un peu plus loin. Et d'autant plus sur des genres musicaux qui sont très peu médiatisés, du type jazz, du type musique du monde. En musique du monde, donc c'est affolant le nombre de choses qui sortent en choses très nouvelles, mais aussi en réédition de ce qui peut se faire sur l'Afrique des années 60, 70.
Ouais, c'est fou.
Ou en ce moment, maintenant, la réédition est plus portée sur l'Amérique du Sud d'ailleurs.
Cumbia et tout ça.
Sur la cumbia ou des choses comme ça, ou sur des pépites qui viennent du Japon années 60. Enfin, bon,
Taïwan,
c'est Bali ou Taïwan. Bon. Voilà, c'est des petites choses comme ça que j'essaye de leur glisser. Ou des fois des grosses émotions musicales, hein, tout simplement. Hein,
mais l'idée, c'est justement dans une bibliothèque, c'est pas une discothèque, c'est pas une médiathèque, c'est pas de proposer des trucs mainstream, c'est justement d'aller vers des choses qu'on n'écoute pas à la radio, qu'on pourrait pas découvrir. Ou alors, c'est plutôt de faire du grand public que les gens vont vouloir retrouver chez vous. Enfin, c'est quoi la tendance? J'imagine que c'est un mix des deux.
Je pense qu'idéalement, oui, c'est un mix des deux. C'est. On peut pas se mettre à dos les goûts des gens. Sinon ils vont fuir d'entrée.
Hein,
donc
public,
donc effectivement, ouais. Je pense qu'il faut leur donner ce qu'ils veulent d'entrée, mais avoir derrière ce qu'ils voudraient bien éventuellement. Ouais. C'est là qu'est notre, vraiment notre boulot. C'est effectivement de satisfaire cette demande immédiate parce qu'on a une ère de satisfaction de demande immédiate. Voilà, tout le monde veut tout de suite maintenant. Et derrière, de proposer des choses pour aller plus loin. Mais il y a des gens qui ne vont pas aller plus loin. Hein. Moi, j'ai encore des échos des gens avec qui je bossais sur Noisy-le-Sec en début de carrière, donc en Seine-Saint-Denis, qui est une très grosse médiathèque, où là, ils ont carrément des gens qui se pointent en début de mois, qui disent « moi, je veux ce disque-là, bon, vous ne l'avez pas », et puis qui reviennent un mois après, savoir s'ils l'ont eu. Mm-hmm. Mais qui prendront rien d'autre.
Ouais.
Donc voilà, bon, bah, si tu arrives à accrocher ces gens-là à un moment donné, c'est bien. Si tu n'arrives pas, bah, c'est tant pis, mais voilà, il faut qu'on ait des fonds très très éclectiques, effectivement.
Alors, un discothécaire, ça écoute beaucoup de musique, donc on a comprendre ça. C'est quelqu'un qui lit aussi beaucoup de blogs, de journaux musicaux pour faire ses choix.
Ouais.
C'est quoi un peu tes petites tes sources, tes indiques?
Malheureusement, les indiques papier sont de plus en plus rares. Il y avait quelques bouquins comme Volume ou des choses comme ça qui étaient plutôt de bonne facture. Moi, je trouvais que ça était un peu une alternative. Ça permettait de découvrir autre chose que les In Rock. Bon, bah, du coup, il y a les In Rock, il y a Jazzman, Jazzmag. Maintenant, on fusionnait. Il y avait Musique qui était excellent comme magazine, qui avait une approche très encyclopédique et très historique et de découvreur qui a disparu, malheureusement. Honnêtement, je trouve que la meilleure source actuellement en papier, c'est Vibration. C'est les plus belles découvertes que je fais, c'est Vibration. Et quasiment, mais même quand, au départ, ils étaient plutôt portés musique black et groove. Et de plus en plus, ce qu'ils proposent en rock ou en folk, néo-folk, est bien plus pointu que ce que proposent les In-Rock, par exemple. Après, les In-Rock, ça reste quand même des incontournables. Hein, on n'a pas le choix. Et même si je ne suis pas forcément toujours très d'accord avec eux, mais comme tout le monde, hein, c'est de bon ton de dire qu'on n'est pas d'accord avec les In-Rock, donc on va le dire ce soir encore, c'est très parisien. Ils sont, voilà. Mais il y a quand même, moi j'ai quand même fait quelques découvertes plutôt sympas.
Il y a des bons journalistes aussi.
Et effectivement, les blogs, un peu comme je disais tout à l'heure par rapport à ce lecteur qui m'a initié au métal, quand un blog d'un grand amateur de musique est très très bien fait, eh ben pourquoi pas s'y pencher un petit peu et voir ce que cette personne propose. Et puis après il y a les sites des labels, enfin bon,
là c'est la pléthore quoi.
C'est pléthore quoi. Mais c'est, de toute façon même 2010 que t'as pas fait le tour, donc
on va continuer. Ça calme
dans cette balade
dans cette balade musicale. Mais justement, les deux titres suivants, tu pourrais nous les présenter, puisque c'est Springsteen et Tom Waits.
Ah ouais, alors ça c'est spécial. Springsteen, je le mets parce que j'aime que cet album en fait.
Atlantic City,
ouais,
c'est ça.
Nebraska,
pardon, ouais, c'est le titre, c'est ça. Voilà, pardon, ouais.
J'aime beaucoup le type. C'est un type que j'ai jamais vu en concert, j'ai toujours eu envie de le voir. Par contre, j'aime pas sa musique en général. J'aime bien Nebraska parce qu'il l'a fait dans sa cuisine avec sa gratte et son harmonica. Les autres albums, il y a trop de cuivre, il y a trop de... Et j'ai lu une critique sur son dernier qui va sortir là dans Télérama, je crois, ou je sais plus où, hier, qui lui reprochait ça justement, qu'il y avait une flopée de cuivre, que les mélodies étaient convenues, etc., etc. Mais voilà, c'est un type que j'aime bien. Et cet album-là, c'est vraiment un album qui me touche énormément.
Côté minimaliste qui t'a touché. Ouais. Ouais.
Et puis voilà, il y a tout Springsteen là, quoi.
Et Tom Waits.
Bah, le Tom Waits, c'est pour tout, quoi. Quel type. Et cette chanson-là, pourquoi ? Parce qu'elle est dans Smoke. Le film de Paul Auster. À la fin, t'as une scène, t'as Harvey Keitel qui raconte son conte de Noël à je sais plus qui en face de lui. Je crois que c'est, je sais plus qui c'est, l'acteur qui joue avec lui. Et en musique de fond, t'as cette chanson de Tom Waits qui prend au trip, quoi, je trouve.
Ok, on écoute Springsteen et Tom Waits ensuite.
Well, they blew up a chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk, they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well, now everything dies, baby. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Well, I got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from the Central Trust, and I bought us two tickets on that close city bus. Now baby, everything dies, honey, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, put your hair up pretty, and meet me tonight in Atlanta City. It's getting cold, and maybe everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. I've been looking for a job, but it's hard to find. Down here it's just winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on this losing end. So honey, last night I met this guy, and I'm gonna do a little favor for him. Well, I guess everything dies, baby, that's a bet. Maybe everything that dies someday comes back. Is your hair up and nice? Is yourself up pretty? Thank you.
eggs chase the bacon on the frying pan. The whining dog pigeons by the steeple bell rope. And the dog sniffed the garbage bells over last night. And there's always construction work bothering you.
Tom Waits sur l'album Swordfish Trombones en 1983. Voilà sa grande période à l'ami Tom Waits. Et puis avant, on écoutait Springsteen avec Atlantic City sur un de ses meilleurs disques, Nebraska. Voilà, et enchaînement que je qualifierais de parfait. Hein, deux grands américains comme ça, de grandes figures de la musique américaine. C'était bien vu, je trouve. En plus, 82, 83. Là, c'est... On sent le professionnel hein, quand même. Donc un vrai DJ, je trouve, dans ses... c'était ouais. voulu.
On fera pas danser grand monde avec ça. Mais
ouais, un DJ, mais... Ah,
ça fera un gros slow quand même, tu vois.
Pas en discothèque.
Discothécaire.
On va revenir sur ton métier, sur le métier de bibliothécaire musical ou de discothécaire. Peut-être à l'aune de l'actualité, puisque c'est vrai que... Ben, on sait tous que voilà, les ventes de disques chutent, que de plus en plus de gens écoutent la musique via Internet, via le téléchargement, mais surtout en ce moment via le streaming avec des plateformes comme Deezer ou Spotify. Mmh. Je crois savoir que les emprunts aussi de disques baissent en médiathèque. C'est quoi l'avenir du disque à l'heure du numérique aujourd'hui dans ces lieux qui sont des lieux de conservation de... du disque aussi.
Ouais, bon, c'est quoi l'avenir ? Je suis pas devin, tu diras, mais
j'imagine que vous y réfléchissez, quoi.
Je pense qu'il y a des pistes intéressantes quand même. Bon, le disque, c'est qu'un support. Hein. On est d'accord. C'est la musique a toute sa place en médiathèque, aura toujours sa place en médiathèque. Il y avait des gens qui disaient, il y a des médiathèques qui se sont ouvertes récemment en Île-de-France sans disque. D'accord. A priori, c'est pas une bonne idée. C'est que il faut multiplier, faut multiplier les approches de la musique, à mon avis, en médiathèque. C'est-à-dire que d'avoir des fonds de disques, c'est une chose, c'est du physique. On est encore sur des générations qui sont habituées à du physique, malgré tout.
La pochette, quand même.
Enfin, il y a la pochette, il y a tout ça. Et puis, il y a c'est de l'immédiat. Je veux dire, tu as le disque devant toi, tu peux l'emprunter et puis y partir avec. Maintenant, c'est plus effectivement suffisant. C'est plus suffisant, d'autant plus que sur... les productions de disques, on passe à côté de plein de choses. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas avoir. Ouais. Il y a de la musique libre qui existe, qui est écoutable que via Internet. Donc, je pense que notre boulot en médiathèque, enfin des médiathèques en tout cas, qu'ont l'espace pour le faire et les moyens de le faire, c'est effectivement de proposer des multiples collections. Donc, des collections à la fois physiques, des collections, des ouvertures vers des sites sur Internet. Alors, des Spotify, les Deezer, c'est très compliqué de bosser avec eux. Hein. Pour l'instant, on n'a pas trop de modèles proposés par rapport à ça. Il y a Music Me qui a fait une expérience, notamment avec la BDP du Haut-Rhin, une espèce de plateforme commune basée sur la plateforme Music Me. Bon, voilà, c'est des projets qui sont en cours, en fait. Hein. Mm. Mais la grande tendance, moi, j'étais à un colloque de discothécaire il n'y a pas très longtemps sur Rennes. Et il y avait Gilles Rethel qui était là, donc juste pour le situer, Gilles Rethel, c'est l'ancien guitariste de Mark Itzad et Mark Seberg. C'est un type qui reste dans la musique énormément parce qu'il bosse sur l'omnibus à Saint-Malo.
D'accord.
Il file des conseils, apparemment, il est conseiller pour la future médiathèque de Saint-Malo. Je ne sais pas si vous connaissez la bibliothèque de Saint-Malo, c'est une tristesse par rapport à cette grande ville. Donc là, il y a un gros projet de médiathèque qui se monte à Saint-Malo. Et lui propose plutôt une approche différente, c'est-à-dire qu'il dit il faut que les médiathèques soient des lieux d'expérience. Et d'expérimentation, où les gens viennent pour vivre des choses un peu différentes. Mmh. C'est un lieu de sociabilisation, la bibliothèque. C'est quasiment un des seuls lieux dans la ville, dans la cité, où on peut aller tous
tout à
se
fait,
retrouver. Ouais. On peut rentrer dans une bibliothèque, on n'est pas obligé d'être inscrit dans une bibliothèque pour y rentrer. On peut y rentrer, se poser, lire le journal, bouquiner des livres, repartir sans rien peut-être, mais voilà, mater une vidéo quand il y a des bornes vidéo pour le faire. Et on peut aller plus loin que ça. Il y a des expériences, par exemple, qui étaient relatées à Rennes. Par exemple, sur la médiathèque d'Agneau, qui est un petit patelin qui est de 3-4 000 habitants, qui est en banlieue de Rouen, il me semble, qui a toujours eu beaucoup de musiciens, beaucoup de petits groupes en amateurs qui jouaient. Et un jour, la mairie vient voir le responsable de la bibliothèque et lui dit « Voilà, on a plus en plus de plaintes en mairie à cause du bruit qui sort des garages, pas toujours très harmonieux d'ailleurs. » Et vous n'avez pas une solution à proposer. Et en fait, il s'avérait que dans le sous-sol de la bibliothèque, ils avaient une grande pièce qui ne servait à rien. Et ils en ont fait un studio de répète.
D'accord.
Mis à disposition des
groupes. Intégré dans la bibliothèque.
Intégré à la bibliothèque. Les groupes viennent chercher la clé. C'est très sérieux. Ils ont investi dans une batterie parce que c'est chiant de déplacer une batterie. Il y a quelques petits placards à matos pour que les groupes laissent 3-4 amplis sur place. Et voilà, et ça tourne. Et du coup, ça leur fait... ça fait de la musique vivante. Et d'ailleurs, c'est des modèles qu'on peut retrouver dans certains modèles de bibliothèques nordiques, par exemple, où tu as carrément des studios de répète. Moi, j'ai l'image d'un studio de répète vitré qui donne sur les forêts de bouquins qui sont à côté, où tu vois des mecs en train de gratter derrière.
Bon. Excellent.
Voilà, de vivre des expériences comme ça dans une bibliothèque. Et je pense que de plus en plus, il faut que ça devienne ça, les médiathèques, des lieux. Et c'est ce que dit Rethel. Rethel, il travaille vachement sur l'idée de cognitif, quoi, où tu viens et tu vis un moment unique. Est différent. Mm. Bon, c'est des choses qui se font déjà. Hein. Enfin, faut pas. Dans la première bibliothèque où je travaillais, on avait des ateliers de rap, par exemple. Bon, c'est en Seine-Saint-Denis, soit tu vas dire c'est des magots, mais non, c'était pas des magots. C'était des trucs qui étaient hyper cadrés avec l'association Chroma, je sais pas si tu connais, qui fait Zebro Kobabu,
oui,
notamment.
Oui, c'est ça, ouais,
donc, j'ai bossé un peu avec ces gens-là. Mm. Et donc, du coup, on avait un écrivain, un vrai, qui bossait avec les mômes pour travailler leurs textes. T'avais Jean-Philippe Darry qui était un clavier de studio qui était là pour les encadrer plutôt au niveau de tout ce qui était harmonique. Et t'avais un autre gars qui était là pour leur apprendre à servir d'un sample, leur apprendre à servir d'une platine, des choses comme ça. Et du coup, ça débouchait sur vraiment de la musique, des projets très concrets, parce qu'on les faisait jouer après sur scène pour la fête de la musique. Mmh. T'as des petits groupes qu'on gravitait un peu de ça à l'époque, genre La Caution, par exemple, qui viennent de Noisy, et les petits frères venaient là. La Caution venait pas, ils étaient déjà un peu connus. Mais voilà, tu vois, ça émanait un peu de ça. Et voilà, l'idée, elle est là. Et ça a très vite débouché sur d'autres choses après. C'était de faire des avant-scènes. On avait le théâtre juste à côté. Bon, c'était le municipal. Et t'as des groupes qui passaient le samedi soir, par exemple, qui acceptaient dans leur contrat où c'était signé, ou je sais pas comment, ce qu'il y avait derrière, où les mecs venaient pendant une heure et demie, dans notre petit auditorium de 45 places, rencontrer les gens. Tu vois, on avait l'orchestre National Barbès qui est venu comme ça, qui a plutôt discuté que joué d'ailleurs, mais c'était plutôt sympa. Ou des mecs comme Zebda qui sont venus m'attaper la causette avec les mômes de l'atelier rap, par exemple. Mmh. et transmettre des expériences. Et c'était des moments uniques. Et souvent, je veux dire, quasiment tous les 15 jours, on avait une animation comme ça, une rencontre d'écrivains ou autre. Et des fois, moi, je m'occupais de la com à la bibliothèque. Et des fois, je chopais les gens qui n'étaient pas du tout venus pour ça, parce qu'ils n'avaient pas lu l'affiche, comme tout le monde. Et je leur disais, bah, tiens, si vous voulez, là, il y a tel écrivain qui est là ou tel truc. Et les gens venaient. Ils étaient venus pour choisir un bouquin. Et c'est en ça, fait, ouais. Ils s'asseyaient pendant une heure et demie. Ils assistaient à une conférence sur les musiques arabes d'un spécialiste de Lima, par exemple, tu vois. Mmh. Ils avaient l'impression d'avoir vécu un moment unique.
C'est un lieu de vie, quoi.
C'est un lieu de vie, voilà. Ouais. Et de plus en plus, il faut que ce soit un lieu de vie puis qu'on sorte un peu de ce créneau. Toutes les bibliothécaires ne sont pas tristes, grises et avec des lunettes, ouais, des lunettes cerclées d'argent.
C'est vrai,
quoi,
que c'est cette image de lieu commun, parce que ça paraît extérieurement assez aseptisé, enfin, quelque part. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant.
Un lieu silencieux, la bibliothèque.
Ça reste un lieu, super silencieux, tu vois. Enfin,
dans l'image.
Oui, dans l'image. Quand tu vas, tu peux avoir cette appréhension-là. Enfin, tu te dis, oh là.
Ouais, mais ça évolue beaucoup. Enfin, dans les consciences, en tout cas, pour les gens qui réfléchissent au devenir des bibliothèques, ça évolue beaucoup, ce truc-là. De plus en plus, on se dit que. Après, il faut avoir des lieux importants, hein, mais on peut très bien penser des zones propres, des zones sales, entre guillemets, en une bibliothèque. Pourquoi empêcher quelqu'un qui vient bosser pendant 3-4 heures d'avoir un petit café à côté pendant qu'il bosse ou de pouvoir aller se détendre 10 minutes en s'asseyant devant une borne pour écouter un peu de musique
Moi, je suis totalement d'accord, mais c'est pas...
Il faut que ça devienne ça.
Voilà. C'était pas forcément concevable à une époque.
À l'image de tout ce que tu dis, me fait penser au Grand Nord, en fait, qui est un lieu qui est basé à Mayenne, mm-hmm. qui réunit à la fois un conservatoire de musique, des studios de répétition, mm-hmm. un cybercentre, et puis une discothèque, une médiathèque.
On est sur une vraie médiathèque, ouais. Mm-hmm. Ouais.
Voilà, donc un mélange des publics, des genres, des pratiques.
Oui, et puis c'est un lieu où on peut faire rencontrer les gens, quoi. C'est ça qui est intéressant, quoi. Ouais. Souvent, c'est les parents qui ne sont pas habitués, qui viennent avec leurs gamins. Les accompagner, et si tu arrives à proposer quelque chose aux parents qui peut les accrocher aussi, bah peut-être la fois d'après ils viendront peut-être sans leurs enfants ou ils viendront à deux, et puis tu vois, c'est super important, je trouve.
Faut qu'on fasse vite parce qu'on nous attend, hein, aux artistes. On va écouter ton dernier choix, enfin tes deux derniers choix. On va commencer par l'avant-dernier morceau, un morceau des Clash. Voilà, les Clash, tu peux nous en dire un mot?
Ouais.
Pourquoi ce choix?
Je sais pas, j'aime les Clash. Au départ, je voulais passer Television, tu vois. Donc, on était sur l'autre versant du punk, si on peut ça du punk. Plutôt le punk, CBGBs plutôt. Là, les Clash, parce que c'est du brut des décoffrages, j'aime bien. Puis j'aime bien ce côté, enfin, peut-être pas forcément trop ce morceau, mais ce côté très métissé des Clash qui est allé voir Belle Reggae. Voilà.
Un morceau qui s'appelle I Fought the Law, qui est une reprise d'un morceau de rock'n'roll, je crois, des années 60-50. C'est parti. I had none. Voilà, donc c'est juste chose qui arrive en radio. Hein, voilà, on ne sait pas pourquoi le morceau s'est arrêté. Pourtant, c'était un MP3, puisque en bon bibliothécaire qu'il est, Sébastien est venu que avec des MP3. Et voilà, donc écoutez Dylan. Hein.
Ouais, Dylan, de toute façon, il n'y a pas de souci, puisque vous viendrez tous en masse l'écouter au 6x4, puisqu'elle vient le jeudi 23 mars, je crois, dans le cadre des Femmes sans mêle. Donc, ça sera, voilà, donc ouais, c'est un jeudi soir.
Vous pourrez découvrir son univers plus approfondément, profondément. Quoi,
plus profondément, de toute façon. Je pense qu'elle. Elle n'écourtera pas ses morceaux comme ça.
Donc Dylan, pourquoi ce choix? Tu avais envie de passer un truc plus actuel, puisque c'est un album qui est sorti en 2011.
Bah tu m'as demandé coup de cœur récent, c'est un des disques que j'ai dû cataloguer la semaine dernière. Et pour le coup, un qui m'a tapé dans l'oreille, pas ce morceau-là, c'est marrant, c'était plutôt le premier morceau qui était beaucoup plus intriguant, celui-ci est plus conventionnel. Et du coup, j'ai écouté un peu tous les morceaux et je trouvais qu'effectivement... Elle bousculait un petit peu la pop, enfin une façon de.
Ouais, c'est indé quand même.
C'est assez indé aussi, c'est une pop indé. Ouais,
parce que l'ouverture est assez instrumentale, si je me rappelle
et
bien.
Et même carrément électro l'ouverture.
Ouais, c'est assez.
Du premier morceau. Et qu'est-ce que j'ai découvert d'autre? Liz Green, qui passe aussi
Sparkle. Qui passe aussi,
qui a une super voix. Ouais.
Sur un Sunday Shining.
Tu as la date
C'est, voilà,
c'est dimanche 15 avril.
Merci Sébastien.
On sent le professionnel là.
C'est ça, t'as raison.
Donc voilà, on pourra découvrir Liz Green le 15 avril. Et Dylan, qu'on vient d'écouter un petit bout, le 23 mars. Merci Sébastien, en tout cas, pour cette super sélection, pour tout ce que tu as pu nous raconter. C'était passionnant.
Ouais, trouve. Merci. Très, très bonne.
Et voilà, ça donne envie de faire un volume 2 de cette émission. On te réinvitera.
Bah, ça donne envie aussi d'aller dans les bibliothèques.
Oui, ce qui est important, c'est d'aller dans les bibliothèques. Il y a quand même une vingtaine en Mayenne qui ont des disques à proposer. Dans le coin, pas trop, il y a Cran. Il y a Cran, il y a Mellet.
Château Gontier aura bientôt une belle bibliothèque.
Château Gontier, a priori, va ouvrir avec des disques, tu vois. Donc
en 2013.
C'est Pierre, le directeur actuel, a vraiment insisté pour que ça ouvre avec du disque.
C'est une bonne nouvelle pour les castro-gontériens et castro-gontériennes. Hein. Ça, c'est un super truc.
Je pense. Ouais.
Et puis, on peut conclure en disant aussi que la BDP, sur son site, propose aussi, tu le disais tout à l'heure, hors antenne, voilà, sur le site, un espace où on peut découvrir aussi tous les disques que tu sélectionnes pour ton comité musique. Donc voilà, comment on fait pour trouver tout ça? On fait comment? On va sur le site de la BDP?
Il faut aller sur le site de la BDP. Bon, dernièrement, ça s'adresse surtout aux bibliothèques, mais tout le monde peut y aller. Donc ça doit être dans la partie découverte des collections, un truc dans le genre.
D'accord, donc on laissera les gens un peu...
C'est dans catalogue.
Papillonner.
Voilà, fouiller là-dedans. Faut se promener un petit peu là-dedans et... Okay. Il y a de quoi trouver. Quoi.
Merci encore. Et
merci,
puis
merci beaucoup.
On va conclure cette émission, comme d'hab, avec une vieillerie, un titre jazz. On termine comme on a commencé, d'ailleurs, puisqu'on avait commencé avec le Marabout Orchestra qui évolue aussi dans cette grande famille du jazz. Donc, un titre du premier album du Castro-Gontérien aussi, Philippe Boitin, vibraphoniste, qui a enregistré en trio son premier album en 97. Un jazz léger, cool, mais en même temps sophistiqué. Qui a eu l'heure de plaire à Daniel Humer, puisque c'est une pointure du jazz français qui signait la couverture de ce disque-là, puis une petite dédicace aussi sur le disque où il dit combien il apprécie la musique de Philippe Boitin. Donc c'était son premier album, comme je le disais, il en a commis d'autres ensuite. On écoute le premier morceau de ce disque-là, et puis on termine avec ça. Ensuite, place à la marmite avec Petit Fat en direct, Petit Fat et Mathieu Gamat en direct du bar des artistes. Voilà, coucou d'ailleurs et merci à Mathieu, dit Gamat, qui quitte le 3 Radio pour d'autres aventures. Voilà, donc bonne chance.
Voilà, donc, comme sa phrase favorite, topette tonton pour le 3 Radio. Merci aussi à Vincent pour la technique.
Tout à fait, et puis on se retrouve en avril. Bonne soirée, bonne nuit, à très bientôt.
Ciao.